Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. À chaque Coupe du Monde, c'est la même histoire, on a toujours nos chouchous, notre équipe de cœur. Là, le mondial, c'est dans 2 mois, mais Martin, lui, il y est déjà. Il a déjà tout pronostiqué, il a fini l'album Panini et rempli tous les tableaux. Avec un vainqueur annoncé, le Sénégal. Voilà, ça fait déjà 6 mois qu'il me tanne avec le Sénégal, dès le tirage au sort, que l'on avait effectué en live, vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos sur Internet. Il n'arrêtait pas avec le Sénégal, donc si le Sénégal est champion du monde, je pense que tu mériteras ta statue là-bas. Je vais vous faire suivre pendant un mois avec le Sénégal. Vous allez voir, ça va aller plus loin que l'Allemagne. Tu sais pas à qui t'as affaire. Il a balancé ça toute l'après-midi sur le Sénégal. Je sais pas, là, c'est une fixette absolue. Il est devenu le supporter numéro 1 des Lions de la Teranga. C'est un amour fou et quasi exclusif. Sénégal-Pays-Bas, 4-0. Qatar-Sénégal, 1-5. Équateur-Sénégal, 2-1 Sénégal, mais juste parce que Aliou Cissé aura fait tourner. Bon, j'en viendrai presque, Martin, et ça va être ma question finale.
Vas-y.
À me demander si tu ne t'es pas levé de ton fauteuil quand le désormais regretté Papa Bouba Diop avait marqué contre les Bleus en 2002.
Eh ben, alors c'est évidemment un souvenir délicat parce qu'il battait la France, mais après j'étais évidemment pour le Sénégal parce que dans cette équipe-là, il y avait toute la Ligue 1. Et là, Djidouf, Fadiga, que des mecs qu'on aimait bien et qu'on connaissait. Et là, c'est un peu pareil avec ce Sénégal. Moi, j'aime bien le Sénégal. J'aime bien le Sénégal. Et en plus, quand tu prends la colonne vertébrale,
c'est
pas...
C'est reparti.
Mendy, Koulibaly, Gueye, Mané, c'est pas dégueulasse. Et pour moi, je le dis ici, et Maxime, on est le 30 septembre, je prends les paris devant la France entière, tous ceux qui nous écoutent au moins.
Ça, faut garder. Hein.
On garde. Le Sénégal fera une meilleure Coupe du Monde que l'Allemagne. Je suis désolé. Et ils iront en demi-finale. Moi, je vous le dis, ils iront en demi-finale.
Une équipe africaine en demi-finale.
Voilà, ce sera la première de l'histoire. Et ce sera le Sénégal 2022. Mais si ça arrive, Maxime, si ça arrive...
Ça, je vais me faire engueuler.
Non. Si ça arrive, je veux des excuses nationales. Maxime, je veux des excuses.
Tu auras des excuses nationales si le Sénégal est en demi-finale de la Coupe du Monde.
Parce que toi, tu te fous de leur tronche. Tandis que moi, j'ai...
Non, mais c'est pas ça. Il a fait un tableau de Coupe du Monde...
Bah oui.
Sénégal battait tout le monde.
Bah oui, Sénégal va aller au bout.
Moi, donc j'imagine que dans le premier sujet de la Stream Team, tu vas nous classer le Sénégal parmi les très grands favoris du mondial.
Je vais dire la vérité. Voilà, l'arrière-boutique de cette émission. C'est que moi, je voulais mettre le Sénégal parmi les favoris de la Coupe du Monde 2022. Et ben, vous n'avez pas voulu. Donc voilà. Moi, après, je suis qu'un petit gars d'Eurosport qui suit les ordres des patrons. C'est toi, c'est Adrien.
T'es droit dans tes bottes.
Ouais, je suis droit dans mes bottes. Moi, je les mets dans les favoris. Donc, ce sera le premier sujet, Maxime.
Ce sera alors, non pas le Sénégal, mais on va se poser la question de on va parler des favoris de la Coupe du Monde et on va évidemment parler de la France et poser une question toute simple. Est-ce que la France, au vu de ces derniers mois, peut encore faire partie des grandes favorites de prochain mondial? 20 ans après l'odyssée du Sénégal en Asie avec cette formidable Coupe du Monde, on a le Brésil qui, a priori, nous semble aussi pas mal parti pour être le grand favori. Mais ça, on développera dans la première partie de l'émission.
Ensuite, on parlera de Lionel Messi, puisque une télé espagnole nous a appris hier que le PSG aurait proposé une prolongation de contrat Lionel Messi d'un an plus un en option. Et la question, elle sera très simple. Est-ce que Paris doit prolonger Lionel Messi et continuer à lui faire confiance sur le moyen et le long terme?
Et le dernier sujet, il reviendra en Ligue 1, toujours un peu plus au sud de Paris. On va parler de Ryan Cherki. Une question tout simple, mais qu'attendons Peter Bosz pour faire jouer Ryan Cherki?
Voilà, les trois sujets, équipe de France, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Restez avec nous, on vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que vous pouvez retrouver aussi les meilleurs extraits de l'émission en vidéo pour voir le joli t-shirt Michel Platini de Maxime Dupuis aujourd'hui sur Eurosport.
On est très vintage d'ailleurs. Là.
On est très moins un peu moins que toi quand même.
Ouais, un petit peu, c'est tendance vintage. Alors je peux pas citer la marque,
non.
Mais c'est une marque vintage qui rappelle les années 70, même si elle a connu un bon regain de notoriété ces dernières années.
Voilà. Exactement, en sponsorisant.
C'est un t-shirt fruité.
le maillot d'une des plus grandes équipes, du plus grand club français
de Ligue 2.
De Ligue 1. C'est terminé en Ligue 2. On y va, Maxime ?
Eh bien, c'est parti. On va parler donc de la Coupe du Monde. C'est dans moins de 2 mois. L'équipe de France sort d'une trêve internationale, on va dire coup-ci, coup-ça, pour ne pas dire autre chose, et finalement d'une année quand même civile qui est
pourrie,
très compliquée. Il y a déjà eu 3 défaites, ce qui est arrivé très rarement à l'équipe de France dans l'histoire, son histoire tout court. On va se poser la question suivante, est-ce qu'à 2 mois du Mondial, est-ce qu'on peut encore classer l'équipe de France parmi, je n'ai pas envie de dire les favorites, parce que naturellement elle y est par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'elle a, par rapport à ses joueurs, mais est-ce qu'on peut la mettre dans les très très grandes favorites, est-ce que l'équipe de France tout simplement et l'immense favorite à sa propre succession, Martin.
À la dernière question, je répondrai non. Et d'ailleurs, on vous a fait un tableau avec les étoiles et nos favoris. Alors, si vous êtes sur le podcast, je vais vous les dire parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Avec 5 étoiles, on met le Brésil. Donc, immense favori pour nous, c'est le Brésil. Avec 4 étoiles, personne. 3 étoiles, Argentine, Espagne et l'équipe de France. 2 étoiles, pour faire plaisir à Maxime, parce qu'on en parlera aussi, l'Allemagne, on ne sait pas pourquoi. Et 1 étoile, Belgique et Pays-Bas. Donc, la France fait-elle encore partie des favorites ? Oui. Est-elle l'immense favorite ? Non. Pourquoi ? Parce que depuis 2018, il y a eu un étiolement du projet collectif. Il y a Didier Deschamps qui, pour moi, a complètement perdu son mojo lors de l'Euro et qui n'a pas retrouvé son efficacité depuis. Malgré tout, c'est avec le Brésil, l'équipe qui présente les individualités les plus fortes, les plus complètes, le 11 le plus complet, quasiment à tous les postes, sauf à celui de piston droit. Voilà, il n'y a que le Brésil qui peut concurrencer l'équipe de France à ce niveau-là. Et que sur un mois, cette équipe, moi, je reste convaincu qu'elle peut battre tout le monde. Après, oui, elle manque de certitude. Elle manque, pour moi, on ne voit pas la direction, on ne voit pas où ça va, cette équipe de France. Et c'est pour ça qu'elle a perdu un peu de sa superbe. Malgré tout, il y a un an, on l'aurait mis, une fois qu'elle avait gagné la Ligue des Nations, je rappelle, face à la Belgique et face à l'Espagne, on la mettait tout en haut. Donc, il ne faut pas tout jeter.
Non.
Mais pour moi, là où on l'a mis, ça me semble pas mal, c'est-à-dire derrière le Brésil, mais parmi les gros outsiders.
Ouais, le problème, alors il y a cette Ligue des Nations, évidemment, on saura dans 2 mois si c'était un leurre, si c'était une parenthèse enchantée, ou si c'était finalement le goût du sang ou le goût de la compétition qui réveille toujours les Bleus. Mais c'est vrai que depuis un an, on a quand même l'impression d'un étiolement. Alors, il y a toujours des circonstances. Au mois de juin, c'était les blessés, la fin de saison, 4 matchs, pas une victoire. Là, c'est encore les blessés énormément. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit, on est sorti d'un Euro avec une équipe de France qui s'est fait battre en 8e de finale. Ça fait des ordres. Alors, on pourrait aussi dire qu'il y avait des blessés, que Didier Deschamps a dû bricoler à la fin de l'Euro. C'est vrai. Mais nous, on l'a dit, je pense qu'à ce moment-là, Didier Deschamps aurait dû partir, laisser son tablier, parce que c'est très compliqué de se relever d'un échec. Il y a une règle tacite qui dit qu'un sélectionneur qui a échoué, même s'il a réussi avant, il vaut mieux qu'il parte, tout simplement, parce que je ne pense pas que Deschamps ait perdu de l'autorité, ça, c'est pas un problème, mais peut-être qu'une ligne directrice, ou des fois, le message passe moins bien. Il essaye de construire quelque chose depuis un an, ce qui est tout à fait louable, c'est-à-dire une défense à 3. Or, l'équipe de France, finalement, va arriver au Mondial avec ce système de jeu, parce qu'a priori, il ne reviendra pas dessus, hormis, encore une fois, une énorme épidémie de blessés qui l'obligerait à passer à 4 derrière. Mais qu'est-ce qu'on va retenir ? Qu'est-ce que ce système est-il huilé ou pas ? Non, il n'est pas huilé, donc c'est un peu un saut dans l'inconnu que les Bleus vont faire au Mondial, et rien que pour ça, je trouve que c'est quand même assez compliqué d'arriver dans une compétition sans savoir. Et je reviens, avant de te laisser la parole,
sur la Ligue des Nations. C'est ton émission, là.
La Ligue des Nations, l'Espagne et la Belgique, il y a plein de façons de le voir. Il y a, comme je l'ai dit, de se dire, l'odeur du sang les réveille, ils sont là quand il faut. Mais il y a aussi des matchs où ça se passe quand même pas bien. Ils reviennent de très loin, d'extrêmement loin contre la Belgique. Donc ça, c'est à mettre à leur profit. Et contre l'Espagne, c'est pas forcément bien embarqué. Donc, on peut aussi se dire que c'est une équipe à réaction, alors qu'on aurait besoin qu'elle soit maîtresse des événements comme elle l'était en 2018.
C'est une équipe qui a prouvé aussi son talent, sa fiabilité il y a 4 ans, qui a gagné une Coupe du Monde. Alors, ce ne sont plus les mêmes hommes. Il en reste quand même quelques-uns. C'est une équipe qui présente le plus gros potentiel offensif de cette Coupe du Monde avec le Brésil, ça veut dire quelque chose. Voilà, l'énorme point d'interrogation, c'est effectivement ce système, cette défense qui est beaucoup trop exposée pour finir tout en haut du monde dans un mois. Malgré tout, je reste persuadé que voilà, il y a de quoi faire. C'est une équipe qui peut battre tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. Il faut juste que Didier Deschamps trouve l'alchimie. Et c'est cette alchimie qui le fuit pour moi depuis un peu plus d'un an, depuis le mois de juin. Mais quand on voit les noms et il reste quand même champion du monde en titre, on ne peut pas ne pas les mettre parmi les 4-5 équipes sur lesquelles miser en début de compétition.
Non mais ça c'est une évidence et de toute manière ce serait impossible de dire le contraire parce que je l'ai suffisamment répété, l'équipe de France, la Coupe du Monde c'est l'affaire d'un mois. Il faut être là à bon moment, c'est un commando. Donc peut-être que cet esprit corps va naître pendant la Coupe du Monde. Il naîtra pas avant puisqu'il n'y a pas de préparation. Regardez 2018, la prépa est plutôt pas mal, mais le premier match contre l'Australie n'est pas terrible. Ouais. Il s'en sort vraiment par le trou de souris. Et puis ça se construit au fur et à mesure. Une fois que c'est trouvé, c'est trouvé. Mais encore faut-il y arriver. Et c'est vrai que là, l'équipe de France arrive quand même sur une Coupe du Monde. On vous a montré tout à l'heure nos favoris à la Coupe du Monde. On a délibérément choisi de mettre personne à 4 étoiles parce qu'on voulait vraiment marquer quand même la différence d'assurance qu'il y a entre ces équipes comme l'Argentine, l'Espagne qui est une équipe qui est grandissante, qui a fait demi-finale à l'Euro, c'était une surprise. Mais on voit qu'il y a quelque chose et qu'il y a du talent et quand ça se goupille bien, ça peut faire très mal. Et le Brésil le Brésil, à chaque Coupe du Monde, il est plus que fourni, notamment offensivement, à part peut-être 2010 avec Luis Fabiano, Robinho et Fred, il me semble, c'était un peu, on va dire, un ton en dessous, surtout quand on comparait à 2002 et 2006, mais c'est vrai que ce Brésil-là a quand même beaucoup, beaucoup pour lui. J'ai envie de revenir aussi sur quelque chose, sur l'équipe de France, qu'on a parlé du terrain, mais il y a toute cette atmosphère autour du terrain qui touche la FFF. Alors on va dire, oui, les joueurs sont dans une bulle, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même une atmosphère souvent qui est assez négative et ça n'aide pas parce que ça rejaillit. Si ça ne rejaillit pas directement sur les joueurs, ça va rejaillir sur le sélectionneur, sur les membres de la fédération et ça infuse quelque chose qui n'est pas positif. Alors, la question sous-jacente derrière ça, c'est est-ce qu'il faut être dans une forme dingue avant une Coupe du Monde pour la gagner ? Il y a tout et son contraire. Le Brésil de 2002, il n'est absolument pas favori. C'est une équipe qui vient sur la pointe des pieds, qui n'a pas grand-chose à espérer, croit-on. C'est une des rares fois en Coupe du Monde que ça arrive et en plus, ils vont la gagner. 2006, l'Italie, sur le terrain, c'est pas mal, mais il y a le Calciopoli. Ouais. Cette affaire énorme, souvenez-vous, les affaires de triche en Serie A qui gâchent un peu. Bon, l'Espagne en 2010, ça allait très bien. L'Allemagne, ça allait très bien. La France 2018, c'était un très bel outsider,
partie des 5, quand même, des 5, dans mon souvenir.
Donc, il n'y a pas de vérité, voilà. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Donc, au moins, c'est un plan qui peut nous rassurer. Mais la dernière chose qui me rassurerait définitivement, quand même, c'est qu'elle retrouve un peu de joueurs. Parce que là, les blessés, il y en a beaucoup. On était à 14 ou 15. Moi, c'est le milieu de terrain qui m'inquiète pas après l'équipe de France.
Quand on reprend notre tableau des favoris, pourquoi le Brésil a 5 étoiles ? Parce que c'est les seuls qui ont tout, c'est-à-dire la force collective, la force des individualités, un sélectionneur qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait. Et quand on prend les 3 étoiles, finalement, la France, c'est un peu l'opposé de l'Argentine et de l'Espagne, c'est-à-dire que l'Argentine et l'Espagne, on est quand même sur des équipes qui ont un projet collectif, qui perdent peu aussi, et voilà, il y a une dynamique qui s'est enclenchée, en tout cas dans ces deux sélections, mais qui manque peut-être à des postes clés de nom. Alors vous me direz, il y a Messi, il y a Di Maria, oui, mais quand on regarde le 11 au total de l'Argentine, il y a des trous. Là où la France, il n'y a pas de trous, mais il manque cette dynamique collective. Et ensuite, l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas, on est quand même sur l'Allemagne, sur une énorme puissance. Maxime l'a mis là pour la forme, parce que Maxime, pour lui, l'Allemagne, dès qu'une Coupe du Monde démarre, l'Allemagne est favorite. Et force est de constater quand même, à l'Euro dernier, ça s'est mal passé. À la Coupe du Monde dernière, ça s'est extrêmement mal passé. Est-ce que l'Allemagne peut se réinventer ? La Belgique, c'est pareil. On est sur la Belgique et les Pays-Bas, c'est les deux contraires. C'est-à-dire la Belgique, exactement, c'est peut-être un peu trop tard et les Pays-Bas, c'est peut-être un peu trop tôt.
Mais je mettrais une petite pièce comme un outsider sur les Pays-Bas quand même.
Moi, sur le Sénégal.
Sur le Sénégal. Mais t'es droit dans tes bottes, c'est bien. Tu vas jusqu'au bout de ce que tu penses.
Chacun son petit favori.
N'hésitez pas à nous dire, évidemment, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce ranking et même de l'équipe de France, si pour vous, elle peut gagner la Coupe du Monde, parce qu'il faut quand même rappeler une chose. Le dernier champion du monde à avoir gardé son titre, c'était en 62. Donc, ça fait une belle lurette. Ce n'était pas la même époque. Donc, ce serait... être champion du monde, c'est énorme. Réussir à le faire deux fois de suite en 2018-2022, ce serait vraiment gigantesque. Il a gagné 3 Coupes du Monde En 24 ans, ça le ferait. Si on m'avait dit ça il y a 25 ans, j'aurais pas fait.
Alors, tu avais déjà, quoi, 35 ans à l'époque,
putain. 35 ans, j'étais dans les Coupes du Monde 58. France, c'est vrai, j'étais à la tribune, j'ai vu Juste Fontaine.
Ouais, avec ton chapeau melon et ta petite canne.
Et ma botte de cuir.
Allez, on passe au deuxième sujet.
Et pourquoi c'est le Sénégal ?
Voilà, pourquoi le Sénégal va gagner la Coupe du Monde ? Dans le deuxième sujet, c'est la presse espagnole qui nous a appris hier que le PSG aurait proposé une prolongation de contrat de Lionel Messi de 1 an plus 1 an. C'est quoi la situation contractuelle de Messi ? En gros, il est sous contrat jusqu'à la fin de l'année, là, juin 2023. Ensuite, il y a une option, il y a une année en option jusqu'en 2024. Et donc, le PSG, ce que nous dit la presse espagnole, c'est que le PSG sécuriserait l'année 2023-2024 et proposera en option l'année 2024-2025. Voilà, j'essaye d'être clair. Messi, on l'a vu, c'est 30 millions d'euros par an. On resterait sur les mêmes conditions salariales. C'est un 35 ans, voilà. Maxime, pour toi, est-ce qu'il faut prolonger Lionel Messi qui fait un super début de saison avec le PSG ?
Possiblement, mais pas maintenant. Voilà, tout simplement. Je pense que le PSG...
C'est fini, voilà.
Non, mais le PSG n'a aucun intérêt à se précipiter. Voilà. Vous allez dire, oui, c'est Messi, etc. Bah oui, mais non. C'est aussi, j'ai envie de dire, dans le changement de culture du Paris Saint-Germain, d'essayer d'être au-dessus de des joueurs. Bah, l'institution du Paris Saint-Germain doit attendre. Voilà. Il n'y a rien qui dit que Messi doit être prolongé maintenant. Autant patienter. Déjà, tu l'as dit, il a 35 ans. Lui donner 2 ans de plus, c'est 37 ans. Alors, on est sur des joueurs qui résistent mieux, qui sont dans une meilleure préparation. Or Messi, je ne sais pas si lui est le plus adapté à ça, même si à 35 ans, ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Donc, on n'est peut-être pas sur une histoire de déclin. Mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, autant attendre. Voilà. Et on en revient toujours à la même histoire avec Lionel Messi. C'est-à-dire que ne pas le prolonger, c'est oui, potentiellement lui donner le choix de partir, parce qu'il faut le dire, l'option sur l'année 2023-2024, elle est liée à un accord des deux parties. Donc si Messi dit non, il n'y a pas de prolongation. Mais si Messi dit non, où va Messi ? C'est toujours la même chose. C'est comme il y a 2 ans. Alors là, il y a le Barça avec Édouard Roméo, qui est le patron des finances, qui a dit financièrement, c'est de nouveau possible, c'est juste un choix technique. Ce qui voudrait dire qu'en gros, si Xavi ne veut pas de Messi, il ne fait pas revenir. Moi, je serais quand même étonné qu'il fasse revenir un joueur à 30 millions, du moins à ce prix-là. Voilà. À part si Messi décide de vraiment couper dans son salaire.
Mais ça n'aurait pas de sens de l'amener au Barça aujourd'hui dans une équipe qui s'est reconstruite sans lui, qui fonctionne bien sans lui. Et là, tu le mets où ? Forcément, tu vas saper.
C'est
une très mauvaise idée.
C'est une très mauvaise idée.
Il ne le fera pas, ça ne se fera pas. Non, je peux prendre la parole ?
Non, mais j'allais rajouter un dernier truc, c'est que de toute façon, le PSG, finalement, n'a pas grand-chose à perdre en patientant. Je vois pas, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas comme sur le cas Mbappé où il y a un joueur qui est en pleine possession de ses moyens. Mmh. Au pire, il part gratuitement. Et ben, il est arrivé gratuitement, donc il partira gratuitement. Donc vraiment, je pense que je temporiserai et même le joueur, je pense que c'est aussi dans l'intérêt du joueur de temporiser.
De toute façon, rien ne se fera avant la Coupe du Monde, ça c'est une certitude. Et les discussions reprendront ou démarreront à la fin du Mondial. Moi, je suis partagé sur cette histoire-là parce qu'effectivement, Messi, enfin, très bon début de saison, très bon début de saison après une année compliquée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il vaut les 30 millions d'euros que dépense chaque année le Paris Saint-Germain pour lui ? Sur le terrain, j'entends juste sur le terrain, c'est-à-dire hors vente de maillots, hors image, hors comment il a fait grandir le club, etc. Simplement sur ce qu'il monte sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui, il mérite d'être le deuxième joueur le mieux payé du monde ? Moi, je ne pense pas et je ne suis pas certain, convaincu, est absolument droit dans mes bottes quand je dis que le PSG a besoin de lui dans la prochaine année ou pendant 2 ans. Je ne suis pas certain. À ce prix-là, je ne prolongerai sans doute pas Messi. Et puis, il faudra voir aussi dans quel état il sera à la fin de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Messi, sa carrière, elle est derrière lui. Il a tout réussi. Il a le record des Ballons d'Or. Il a gagné 4 Ligues des Champions. C'est une légende absolue. Il a gagné la Copa América. Tout ce qui lui manque, c'est une Coupe du Monde. Donc, quoi qu'il se passe au mois de novembre ou décembre, s'il la gagne, il aura atteint une sorte d'état de grâce. Après, il faudra retomber sur terre. Et s'il ne la gagne pas, il va sans doute ruminer ça parce qu'il sait sans doute que c'est sa dernière. La prochaine, il aura 39 ans. Et il sera sans doute plus au Paris Saint-Germain, mais dans des championnats un peu plus exotiques ou aux États-Unis où c'est très compliqué de garder un niveau suffisant, surtout pour l'équipe d'Argentine. Donc voilà, je me dis que la Coupe du Monde, ça peut agir comme un tournant. Voilà, si au mois d'avril-mai, il est absolument gigantesque, monstrueux, qui fait gagner avec des champions à Paris ou je ne sais quoi, qui retrouve son niveau du FC Barcelone, parce que quoi qu'on en dise, il est très bon, mais il n'a pas aujourd'hui son niveau du FC Barcelone. Ce n'est pas le joueur qui fait gagner des matchs au Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est beaucoup plus Mbappé, c'est beaucoup plus Neymar, c'est beaucoup moins Messi. Après, oui, il fait plein de choses très bien et il s'imbrique bien dans ce trio-là et il délivre un nombre de passes décisives, décisives ou non d'ailleurs, qui sont incroyables. Mais pour moi, le prolonger, ça engendrerait trop de choses d'un point de vue économique, d'un point de vue de la stratégie aussi du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, aujourd'hui, à l'heure H, je m'abstiendrai.
Ouais, et puis de toute façon, comme tu le dis, je pense qu'il a même, d'une certaine manière, renoncé à aller chercher. Il n'a jamais vraiment été purement un joueur de stats. Mais voilà, d'être le troisième homme dans cette équipe, je pense que ça lui va très bien de faire le job. Voilà. Il y a autre chose.
Mais est-ce que pour un troisième homme, tu dépenses 30 millions d'euros
pas ? Voilà. Non, c'est trop cher. Ouais. Là, c'est le prix. C'est le prix du prestige, c'est le prix de la grandeur, c'est le prix de Messi, voilà, simplement. Mais il y a autre chose aussi dans lequel il faut tenir compte, c'est-à-dire que prolonger Messi, c'est de se l'adjoindre, donc 2 ans de plus potentiellement. Le PSG, cette année, parce qu'il existe encore, a été sanctionné par le fair play financier. Ouais. Il a pris une amende de 65 millions, qui est ramenée à 10 millions, ce qui fait une belle ristourne, s'il paye avant 2025-2026. Donc a priori, le PSG va payer 10 millions, ça ira très bien. Or, le fair play financier a changé. Or, en 2025-2026, on demandera au PSG d'avoir une masse salariale, on va dire encadrée, mais qui ne doit pas dépasser 70% du budget. Quand vous mettez 30 millions dans un joueur, vous plombez un peu vos finances et vous prenez le risque de dépasser. Alors, loin de moi l'idée de penser que le fair play financier et les fourches codines de l'UEFA vont gêner les vendeurs, les clubs, mais quand même, a priori, c'est une règle à respecter. Et on peut imaginer que si le PSG a envie d'entrer dans les clous et que les clubs jouent le jeu, bah Messi, ça peut être une épine dans le pied, surtout si le Messi de 37 ans n'est plus le Messi de 35 ans, qui, encore une fois, tu l'as dit,
c'est pas
le Messi de 30 ans, mais c'est un joueur quand même qui est plutôt acceptable, voilà, pour ne pas dire beaucoup plus. Donc voilà, il y a ce risque-là aussi à long terme de se dire mes finances sont plombées et je ne rentre pas dans les clous des 70% de masse salariale en 2025-2026.
Moi, je partirais peut-être sur un autre projet, sur ce qu'a réclamé Kylian Mbappé cette semaine, par exemple, en achetant un avant-centre qui joue le rôle de pivot, dont se plaint Kylian Mbappé. Mais je repenserais, ça donnerait peut-être l'occasion de repenser cette attaque-là, dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle vaut au très très haut niveau. Voilà, va falloir attendre les huitièmes, les quarts, les demi, on espère, pour le Paris Saint-Germain, la finale. Mais voilà, moi, je repenserais peut-être ce système-là et je profiterais de la fin de contrat de Lionel Messi pour m'engager sur un autre chemin qui me semble un peu plus pérenne, un peu plus... qui peut permettre à Paris d'avoir une vision sur, sur les quelques années qui arrivent. Voilà, pour moi, Messi, ça me semble... aujourd'hui, malgré son excellent début de saison, ça me semble cher pour ce que ça sera dans un ou deux ans.
30 millions, ça serait cher. Et puis, on a envie, je ne sais pas si vous avez envie, mais voir Messi en Argentine avant la fin de sa carrière.
Ça, ce serait,
pas mal.
Mais ça, c'est le panache dont on rêve. Ouais. On aurait rêvé de voir Ronaldo au Sporting. Ça n'arrive jamais, Maxime.
Alors, ça n'arrive jamais.
Sauf avec Alexandre Lacassette, je vais arriver à le dire. Allez, c'est quand même un autre niveau.
Un autre niveau, voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as fait la transition, en fait.
Et mais tu crois que je fais tout ça par hasard, Maxime ? Parce que lui, il se dit, c'est de la chance, au pire. Mais tout ça, c'est bossé, Maxime.
Il y a tout est écrit. En fait, il ne fait que lire.
Alors, je monte l'ordinateur alors qu'on fait un podcast.
Ça sert strictement à rien. Je vais vous montrer mes feuilles.
Ça sert strictement à rien du tout. Et donc, on va finir cette émission avec le cas Ryan Cherki. Lyon, qui se déplace, me semble-t-il, à Bollard.
À Lens, ouais.
Dimanche, pour le choc de le dernier match
de
ce week-end de Ligue 1. Et nous, on va se demander si le temps de Ryan Cherki n'est pas venu. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Plusieurs choses. Déjà, un début de saison où il joue très peu, mais où il est impliqué quand même sur quelques buts. Je crois que c'est 3 passes décisives en 97 minutes. Il sort d'une semaine où il a fait deux passes décisives avec l'équipe de France Espoir. Il a 19 ans, donc mine de rien, c'est pas non plus le petit jeune qui sort du centre, puisqu'il est dans ce groupe professionnel depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Quand même, Ryan Cherki,
on commence
ça,
à le connaître.
On commence à le faire, ça commence à monter. Il a parlé de son impatience. On va revoir cette phrase qu'il a dit cette semaine. J'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire. Mon heure viendra à un moment, je le sais. Je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir. Donc là, on a quand même toutes les pièces du puzzle qui sont en train de s'imbriquer. Il y a Lyon en plus qui reste sur trois défaites consécutives. Donc on se dit qu'il serait peut-être temps d'apporter autre chose. Donc Maxime, la question, elle est claire, elle est nette, elle est simple, elle est limpide. Le temps de Cherki à l'OL est-il venu?
Je serais Peter Bosz, j'essaierais quand même en tout cas. Je me donnerais parce que comme tu l'as dit, les trois passes décisives en 87, en gros, sur un match complet, il aurait fait trois passes décisives. Alors évidemment, c'est des passes décisives de fin de match, des situations particulières, mais à un moment, oui, tu peux te demander à l'utiliser. Il était en conférence de presse, Peter Bosz, ce vendredi, et il a dit texto, quand la question lui a été posée, « Je sais, il est très populaire auprès des supporters. » Ça commence pas très bien. Ça veut dire, en gros, oui, c'est de marotte, etc. « C'est super pour les supporters. Moi, je regarde avec qui on peut gagner les matchs. Si je pense qu'avec c'est avec lui, il jouera, et à l'inverse. Mais je sais, il est très populaire, il a répété. Il a des qualités vraiment spécifiques, les deux pieds, presque pas de différence. Les deux pieds, depuis qu'il joue, tout le monde le dit, voilà, gaucher, droitier, c'est exceptionnel. Voilà. Avec les jeunes joueurs, on se pose toujours la question de comprendre pourquoi il ne joue pas plus quand c'est un jeune joueur comme ça. Alors il y a plein de choses, il y a parfois les statuts dans une équipe. D'ailleurs, qu'on sort plus facilement un Cherki qu'un Lacazette, qu'un Tété, qu'un Toto, un Toko et qu'un Bi, pardon.
Qu'un Tété, qu'un Toto.
C'est dur, ça. L'enchaînement est difficile. C'est ainsi, voilà, tout simplement. Après, on peut toujours aussi se chercher de dire peut-être que c'est lui dans son évolution, maturation plus lente, voilà. Mais il y a toujours un doute quand même, c'est que vous allez regarder ce que disent tous les entraîneurs de lui depuis, Genesio, Garcia. Genesio, c'était le talent, à un moment, ça ne suffit pas. Garcia parlait de son replacement défensif. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui pose plus problème, c'est sans doute ça. C'est de le faire jouer d'entrée, c'est-à-dire que tu risques de te déséquilibrer parce qu'il va t'apporter du lien offensivement, ce que Paqueta pouvait apporter et que Lyon n'a peut-être plus aujourd'hui. Peut-être que c'est ce joueur-là qui te l'apporte, mais s'il joue, tu prends le risque potentiellement d'avoir une équipe un peu déséquilibrée. Mmh. Mais là, j'ai envie de dire, si ce risque-là aujourd'hui existe et si Lyon est un peu au bord du précipice, c'est pas de la faute de Cherki, c'est de la faute de Peter Bosz qui jusqu'ici n'a pas réussi à construire quelque chose où il pourrait mettre dans les meilleures conditions ou parfois donner du temps de jeu à Cherki et ne pas se dire à chaque fois « Oh là 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 là, ça va mal, ouais, on va
si
le chercher
au pompier, on va se flinguer.
Ouais. » On va se flinguer. Donc il y a aussi ça, cette timidité de la part de l'entraîneur, de se dire « C'est ma dernière carte, je la lance avec le risque que cela comporte. » Il le voit en fait, aujourd'hui Cherki, il sert à quoi en fait? C'est un peu le pompier en quelque sorte, c'est-à-dire faire rentrer en fin de match pour voir si ça fait revenir, voilà. Pour l'installer, je pense qu'il y a le travail de son côté, mais il y a aussi Bosz qui doit, à un moment, se décider à y aller parce que c'est une situation, il l'a dit, tu as dit, je suis patient, mais je commence à être impatient. En gros, non, il n'est plus patient, il a envie de jouer. L'équipe ne joue pas bien, l'équipe ne perd trois matchs de suite, donc à un moment, c'est son heure. Je ne serais pas étonné que ce soit dimanche, quand même.
Moi non plus, je ne serais pas étonné que ce soit dimanche. Tu l'as dit, je pense qu'il y a un problème de course et de volume de jeu. C'est ce que demande Peter Bosz à ses joueurs. Et c'est vrai que Cherki, ce n'est pas le meilleur pour ça. Mais alors, pour moi, il faut choisir. Il faut être clair avec Ryan Cherki. Encore une fois, il a 19 ans. Ça fait plusieurs saisons qu'il est dans le groupe professionnel. L'an dernier, il a déjà très peu joué. Bon, il s'est blessé en fin de saison, ce qui n'a pas aidé. Mais on lui a fait moyennement confiance. À un moment, il faut dessiner quand même. Quand on a un joueur de ce talent-là, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour reconnaître au moins son talent, il faut lui donner une carotte, il faut qu'il y ait une trajectoire, il faut qu'il y ait une évolution au moins. Là, on ne sent pas d'évolution, et au contraire, c'est vraiment, il joue les 15 dernières minutes des matchs. On est dans une équipe qui ne tourne pas. En plus, encore si tous les titulaires étaient absolument indiscutables, s'il fallait, Peter Bosz avec son équipe type et qu'elle cassait tout. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, quel est le risque de faire rentrer ou titulariser à Ryan Cherki? C'est quand même le deuxième Lyonnais le plus décisif depuis le début de saison, si on rapporte à son nombre de minutes derrière Tété. Ça veut quand même dire deux, trois petites choses. Et puis, Il y a autre chose, c'est que c'est l'ADN de l'Olympique Lyonnais, de faire grandir les jeunes et de les propulser dans l'équipe première. Et qu'à un moment, il faut aussi montrer à ceux qui arrivent derrière, dont on dit aussi qu'ils ont beaucoup de talent, eh ben que le fleuron de sa génération, il arrive à se faire une place. Que le fleuron de sa génération, il arrive à gagner du temps de jeu chez les professionnels. Parce qu'il fut un temps où Lyon n'était pas Lyon d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans Coupe d'Europe, mais qu'il dominait et archi-dominait la France, qu'il faisait partie des 4, 5, 6 meilleures équipes d'Europe et qu'il arrivait à faire jouer très régulièrement des joueurs de 17 ans, 18 ans, des Ben Arfa, des Benzema, alors même qu'ils ultra-dominaient le championnat de France. Donc on ne vienne pas me dire qu'aujourd'hui, un Cherki, alors je ne dis pas qu'il a le niveau de Benzema ou de Ben Arfa, je ne sais pas la carrière qu'il fera, mais il a quand même quelque chose, ce gamin-là, qu'on ne vienne pas me dire que Cherki aujourd'hui n'a pas sa place dans le 11 de Peter Bosch.
Ouais, et puis alors je vais dire quelque chose qui ne plairait sans doute pas à Peter Bosch.
Vas-y Maxime, il nous écoute pas.
Non pas que Olas va lui mettre un nouvel ultimatum s'il se plante. La rigueur, il n'a pas grand chose à perdre finalement. C'est-à-dire qu'on va lui dire, bon bah t'as pas gagné, faut encore te remettre, on te donne jusqu'à 15 février comme depuis l'année dernière. C'est que dans une équipe, alors c'est parfois plus difficile à accepter parce qu'il est jeune, mais t'as le droit d'avoir un joueur qui court moins que les autres. Le problème de regarder Paris Saint-Germain, c'est quand on a trois qui pose problème. Voilà. Mais alors oui, il n'est pas le seul en plus, parce qu'on sait que les joueurs ne répondent pas forcément aux efforts que Boss veut. Mais le problème, c'est que si ça ne marche toujours pas, c'est qu'il y a quand même un problème qui dépasse le terrain et qui dépasse le cas de Cherki. Il fait jouer Cherki, il fait un super match, il donne deux passes décisives ou il marque, j'en sais rien. Il court un peu moins, bah, c'est pas grave. C'est qu'on ne peut pas avoir dans un football que des robots, tout simplement. Mmh. Et peut-être que ce joueur-là est fait de cette matière-là, d'être plus talentueux que travailleur, voilà, c'est pas grave, ça arrive à des très grands joueurs avant lui, ça arrivera après. Et je pense que toujours ramener un talent tel qu'il est, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un talent complètement fou depuis qu'il est tout petit. Ouais. C'est-à-dire que l'histoire des deux pieds, tout le monde, dès qu'il y a quelqu'un qui parle de ça, il dit mais il n'y a pas de différence entre son pied gauche, son pied droit, c'est complètement dingue. À un moment, on peut avoir une équipe avec des grognards et un joueur de talent qui courra un petit peu moins. Et je pense qu'il faut l'assumer, surtout dans une période comme aujourd'hui.
Après, oui, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il y a eu un phénomène de lyonisation, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on l'a monté très vite, très haut en épingle, parce qu'il sortait du centre de formation, parce qu'il avait ce jeu un peu frisson. Mais voilà, il faut faire attention. L'OL, ils ont déjà grillé à War, parce qu'ils s'en sont servis, ça a bien marché. Ils ne l'ont pas vendu au bon moment. Et aujourd'hui, Aouar n'est plus que l'ombre de lui-même. Et on oublie même qu'il fait partie parfois de ce collectif-là. Là, il y en a un nouveau qui est très prometteur et très bon. Autant utiliser son plein potentiel. Et je pense qu'il faut arrêter d'être patient avec Cherki. Ça, c'est une certitude.
En tout cas, lui, il commence à être impatient.
Ouais. Et oui, exactement. Et moi, je suis déjà impatient de te retrouver la semaine prochaine.
Déjà, ouais.
Ah, je te le dis. On a fait le tour, Maxime.
Je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour, on a été bon, comme d'habitude. Si on pouvait en dire de même d'Adrien derrière la caméra, ce serait un grand pas pour
Il est en train de préparer les plans, là, je crois qu'il nous prépare des plans. On a un travelling.
Ouais, on a un drone au-dessus de nous, là, pour la drone. Première fois, je peux vous dire. On voit toute la calvitie de Maxime, c'est un désastre. C'est un désastre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Lundi, vous avez Tour d'Europe. Mercredi, vous avez Mercredi Mercato. Et le vendredi, le FC Stream Team. Restez avec nous tout le week-end parce qu'on a un très joli week-end. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro du FC Stream Team, Maxime.
C'est ça. Et je vous conseille mercredi Mercato pour ma séquence préférée de toute l'histoire de leur sport, le Merca Quiz.
J'allais oublier quelque chose. Maxime, qu'est-ce qui se passe jeudi?
Qu'est-ce qui se passe? Ah oui,
Ah oui, il nous parle ça matin, midi et soir. Il m'envoie des mails, il m'envoie des WhatsApp, il m'envoie des SMS, il m'envoie des pigeons voyageurs. Il ne parle que de ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe jeudi?
Moi, ça me gêne de le dire.
Ça te gêne de le dire, arrête, vas-y. Non, mais ça ne te gêne pas quand la caméra elle est éteinte. Alors vas-y, assume un moment, Maxime.
On sort un livre aux éditions Rosport avec Laurent Vergne. Voilà. Les grands récits. Si vous aimez les grands récits, vous avez une version illustrée qui arrive jeudi dans toutes les librairies, les bonnes et les mauvaises.
Et Maxime s'engage à vous dédicacer.
Oui, pourquoi pas.
Si vous l'appelez, il vient à la maison, quoi. Il fait le service.
Je sais pas si je viens à la maison, mais si on le voit, on peut le dédicacer, ça c'est sûr.
Oui, bien sûr. Et je peux vous dire, autant, le livre en récit, c'est un bel objet, c'est trop beau, mais une dédicace de Maxime Dupuy dans 20 ans, ça se revend très très cher, je peux vous dire. Une
Et tu sais que j'ai découvert que c'était difficile, les dédicaces.
Ah bah oui, c'est pas facile.
Parce qu'il faut avoir des trucs intéressants à.
Ah bah ça, c'est pas ton fort, oui. On l'a remarqué sur la dernière demi-heure, là d'ailleurs.
Mais j'ai déjà ta dédicace. Peut-être ce sera un dessin.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous lirai la dédicace que Maxime a fait sur mon livre que je vais m'empresser d'acheter. Ciao tout le monde. Merci Adrien derrière la caméra, merci Quentin Guichard au visuel. À la semaine prochaine. Ciao.
Salut.